Bien, bonsoir à tous. Il y a une affluence très grande ce soir sur cette question. On ne va pas en déduire que nous avons tous peur de la Chine, mais enfin, peut-être un peu quand même. J'espère que ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas pu trouver une place dans cette salle en ont trouvé dans l'autre salle, avec la retransmission qui va avec. Bonsoir à tous, et j'éteins le portable, ça sera très utile. Je crois qu'on peut être plusieurs à le faire. Et bienvenue donc pour cette 23e soirée d'éthique publique, la 5e de cette année universitaire des facultés jésuites de Paris. Bienvenue évidemment aux fidèles de ce rendez-vous du premier mardi de chaque mois. Et puis bienvenue aussi à ceux qui viennent pour la première fois. Je crois qu'il y en a beaucoup ce soir. Les soirées d'éthique publique se veulent très modestement comme des fenêtres sur des réalités sociales, politiques, internationales qui nous concernent tous d'une manière ou d'une autre. L'objectif étant d'essayer de nous donner quelques éléments de compréhension et d'analyse, repérer des critères ou des pistes qui nous permettront de continuer notre propre réflexion personnelle et avec d'autres. Et donc le point de départ, eh bien, c'est la parole d'une ou deux personnes qui partagent simplement et en confiance comment ils perçoivent les enjeux de telle réalité. La parole de nos invités n'est évidemment pas une parole définitive, mais bien une parole pour ouvrir à d'autres paroles, à d'autres réflexions. Je rappelle qu'il est toujours possible de s'inscrire à l'accueil du Centre Sève ou au secrétariat si vous désirez être informé par mail du thème de la prochaine rencontre, et de même qu'il est toujours possible d'écouter, de réécouter l'enregistrement de la soirée, de toutes les autres soirées précédentes, d'ailleurs sur le site internet du Centre Sève, www.centresève.com. Alors le mois passé, nous nous étions interrogés. Notre société sait-elle encore prendre soin de l'autre? Et nous avions beaucoup profité de la présence et de la réflexion de M. Jean-Baptiste de Foucault. Ce soir, eh bien, notre regard va nous amener beaucoup plus loin, même si notre réflexion de ce soir n'est évidemment pas sans lien avec l'avenir de notre pays. Et nous allons regarder vers cette Chine qui s'est maintenant réveillée, qui est devenue la deuxième puissance économique mondiale. Ces multinationales, eh bien, se lancent à l'assaut des marchés, y compris en Europe. Son rôle politique est désormais incontournable dans la gestion des affaires du monde. Et tout cela ne manque pas d'inquiéter ce monde, particulièrement l'Europe, qui voit ses richesses, son dynamisme, son influence contestée, diminuée. Quelles sont déjà les conséquences de cette prédominance chinoise sur l'économie et l'influence politique de l'Europe, par exemple? Cette prédominance est-elle aussi vraie qu'on le dit, qu'on le craint? Faut-il avoir peur de la Chine? Alors le titre de notre soirée est évidemment provocateur, sans doute simpliste, mais il est le reflet de l'inquiétude de beaucoup, beaucoup de nos contemporains, si l'on en croit aussi la une de nombreux hebdomadaires et magazines. Alors pour nous aider à y voir clair, eh bien, nous avons beaucoup de chance ce soir, beaucoup de joie aussi à accueillir nos invités. Tout d'abord, je suis très heureux d'accueillir le père Benoît Vermander, que beaucoup ici connaissent, au moins par ses travaux. Benoît Vermander est jésuite, sinologue, politologue, directeur de l'Institut Ricci de Taipei. Benoît, tu es également professeur associé, je parle sous ton contrôle, à la faculté de philosophie de l'Université Fudan de Shanghai. Et tu es également directeur de rédaction de la revue en langue chinoise Renlai que tu as fondée. Conseiller auprès du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, tes travaux portent notamment sur les religions chinoises aujourd'hui et la théologie catholique chinoise. Je pense à l'un de tes derniers ouvrages, L'Empire sans milieu, essai sur la sortie de la religion en Chine, aux éditions DDB en 2010. Tu as également travaillé sur la minorité Yi dans le Sichuan, que tu connais bien. et sur la place de la Chine dans la mondialisation, confère l'ouvrage que tu as écrit en 2008, La Chine ou le temps retrouvé, les figures de la mondialisation et l'ascension chinoise aux éditions Academia Bruyant. Tu es donc l'auteur de nombreux ouvrages, et pas seulement en français, puisque sous ton nom chinois, j'ose à peine me risquer, Wei Ming, ça, je ne m'en tire pas trop mal visiblement, mais je n'irai pas plus loin ce soir, tu as publié donc plusieurs livres en Chine et à Taïwan. Évidemment, tout cela ne suffit pas. Tu t'es également mis depuis plusieurs années à la calligraphie chinoise, sous le nom d'artiste de Bendu. Bendu. Tu produis une œuvre de peintre chinois et de calligraphe désormais reconnue. Et puis évidemment, pourquoi se priver ? Tu aimes la poésie et tu as publié plusieurs recueils de poèmes, dont le dernier, À terre et à planter, est paru chez DDB en 2010. Alors voilà de nombreuses fois que je cherchais à t'attraper lors de tes passages en Europe pour une telle soirée. Je suis très heureux d'y être parvenu ce soir et merci beaucoup, cher Benoît, de ta présence. Merci également à vous, Monsieur Jean-François Dimiglio, d'être avec nous ce soir, avec Benoît que vous connaissez bien. Vous avez d'ailleurs passé la journée à travailler dans un autre lieu ensemble, et dans ce lieu du Centre Sèvres qui ne vous est pas étranger également. Sinologue, économiste, universitaire, vous êtes ancien de Normale Sup et de l'Université de Pékin. Vous avez passé plus de 20 ans dans un grand établissement financier français, BNP Paribas pour ne pas le nommer, en poste à l'international et en particulier en Asie, et c'est ainsi que de 2005 à 2008, vous avez occupé le poste de responsable du secteur énergie et matières premières de BNP Paribas en Chine. Travaillant désormais à Paris, vous êtes chargé du développement des activités de la Banque de financement et d'investissement dans l'ensemble des pays émergents. Vous êtes chargé de cours à l'Institut d'études politiques de Paris, de Lyon, ainsi qu'à l'École des mines. Vous êtes membre fondateur du Centre Asie, l'Asia Center, le centre d'études sur l'Asie créé en 2005 par à Sciences Po, Paris, et vous en êtes devenu le président depuis 2009. Dans un emploi du temps que nous devinons bien chargé, eh bien, merci beaucoup de votre présence et de votre disponibilité. Alors, faut-il avoir peur de la Chine ? Sans plus attendre, je vous laisse à tous deux la parole pour 15-20 minutes environ chacun, avant, comme nous en avons l'habitude, d'engager le débat tous ensemble. Et nous commençons par M. Dimiglio qui prend déjà le micro et qui s'arrêtera davantage sur l'aspect économique de la question.
Oui, je vous remercie. Je vous remercie naturellement de votre invitation et de vous retrouver toujours aussi nombreux, ce qui, par ailleurs, est toujours aussi une angoisse pour l'orateur, parce qu'on imagine les attentes et les nombreuses questions. On va essayer d'être aussi court que possible, comme vous l'indiquez, et je me permettrai, si vous voulez bien, trois remarques préliminaires, puisqu'on vous demande s'il faut avoir peur de la Chine. Je remarquerai de façon ironique que l'invitation portait une photo de Hong Kong, qui, comme on le sait tous, fait partie de la Chine, mais la première population qui a sans doute la réponse, c'est la population de Hong Kong, dont la photo figure ici, puisque vous avez une photo sur l'invitation qui représente le front de mer de Hong Kong. Allons demander ça à nos amis hongkongais, qui sont devenus, même s'ils étaient déjà chinois, partie intégrante de la Chine il y a maintenant un peu plus de 13 ans. On ne peut pas dire que ça se passe vraiment mal, donc c'est une exergue que je voulais faire. La deuxième exergue que je souhaitais faire, en particulier dans ce lieu, c'était de vous dire « non abbiate paura ». Et c'est, je crois, quelqu'un qui sera bientôt bien heureux, qui nous avait appris à dire ça il y a quelque temps. Donc je crois que devant toute situation, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Et puis la troisième remarque préliminaire, elle n'est pas de moi, et si vous le permettez, je vous lis très rapidement un petit texte. « Ô frères et sœurs, dans cette incertitude épouvantable de la nuit, qu'ils sont rares ceux qui fêtent du fond de leur cœur la naissance. Ils viennent du fond de l'Orient, et ils ne savent rien de ce qui leur est demandé. Ils n'ont pour guide que le signe de feu qui brille indifféremment dans le ciel, quand va se répandre le sang des grappes ou le sang des désastres. Ils ont charge d'un royaume aux richesses fabuleuses, et il semble qu'il y ait sur leurs vêtements, au fond de cette nuit, une lueur encore, comme quand on voit crouler faiblement au fond d'une cave l'amoncellement inestimable d'un trésor. C'est le rivage des Sirtes, c'est le sermon de Noël à Saint-Damas, et je voulais nous mettre un peu dans cette situation qu'ironiquement l'auteur du rivage des Sirtes identifie à notre situation d'occidentaux qui créons le désastre tout simplement parce qu'on l'a redouté alors même qu'il n'était pas supposé arriver. On attend et puis ça arrive parce qu'on attendait trop. Donc les trois temps de ma réflexion, si vous le voulez bien, ce sera naturellement pour commencer de relativiser cette peur de la Chine, bien sûr d'objectiver aussi cette peur de la Chine parce que nous avons des raisons d'avoir peur de la Chine, mais en même temps je voudrais qualifier cette peur, parce que cette peur, c'est, vous l'avez dit, cette Chine qui vient, comme le dit très justement un numéro de Courrier International dont la responsable est dans la salle et que je me permettrai de citer, La Chine qui vient, qui est une excellente revue d'un certain nombre d'articles parus en Chine et qui nous montre la diversité de la société chinoise. Et puis pour finir, naturellement je reviendrai sur notre sentiment de peur, sur cette subjectivité, tout en faisant ce que j'appellerais simplement une méditation documentée, certainement à partir des sujets économiques et des faits que je connais le mieux. Donc pour relativiser effectivement, il n'y a pas de doute, nous sommes en train de changer de monde et nous sommes en train d'entrer dans un monde où la Chine va être présente. Alors l'année 2010 à cet égard est intéressante parce que on n'a pas encore tous les chiffres, mais probablement c'est l'année où on va s'approcher du croisement des investissements étrangers entrant en Chine et des investissements chinois qui vont vers l'étranger. Chaque année, la Chine reçoit à peu près 100 milliards de dollars d'investissements étrangers. Il est possible, en particulier grâce à quelques gros investissements en Afrique du Sud, entre autres, qu'elle ait atteint ce chiffre elle-même concernant ces investissements à l'étranger. Alors, déjà, relativiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 30 ans, ces 100 milliards d'investissements étrangers arrivent en Chine. Or, c'est la première année qu'on serait arrivé en 2010, ou peut-être qu'on arrivera en 2011, c'est en train d'arriver certainement, à ces investissements. Donc, si on regarde les stocks, on est naturellement très loin d'une Chine déjà omniprésente et qui a déjà installé sa marque partout. L'autre façon de relativiser aussi à propos de ces investissements dont on nous parle beaucoup, c'est que si on prend le point de vue de la Chine, bien sûr, un investissement c'est toujours quelque chose de calculé, c'est toujours quelque chose qui répond à des exigences qui ne sont absolument pas des exigences philanthropiques, mais il y a aussi une dimension qui entre dans ces investissements en Europe, puisque c'est bien de l'Europe que nous parlons, et c'est bien sûr de la peur européenne dont nous parlons, mais ces investissements, ils sont aussi du point de vue chinois, comme on dit dans le monde financier, une couverture contre d'autres risques. Couverture contre quel risque? Mais justement contre le risque américain. C'est-à-dire que cette peur dont on va voir qu'elle peut être réciproque aussi, eh bien, cette peur, c'est aussi celle des Chinois qui se sont rendus compte à un moment qu'ils étaient extrêmement dépendants, en tout cas du point de vue financier, du dollar américain, du destin du dollar américain, sur lequel ils essaient d'influer sans contrepartie, parce qu'eux-mêmes, effectivement, ne s'engagent pas dans ce jeu monétaire. Et l'euro, les investissements en euros, l'investissement dans la dette grecque, l'investissement dans la dette espagnole, les achats d'actifs en Europe, quand ils sont très visibles, quand ils sont très forts, eh bien, c'est aussi une espèce de couverture contre ces risques. Relativiser, c'est aussi, je vais très vite et je vous prie de m'en excuser, on reviendra sur tous ces points avec vos questions, j'en suis sûr, relativiser aussi, c'est la question de l'extension territoriale. On a vu à beaucoup de moments dans l'histoire des grandes puissances émerger, puis finalement, je dirais, si la Chine est la grande puissance du 21e siècle, elle succédera à une grande puissance qui n'a pas tenu ce rang très longtemps, ou même si on va vers un G2, eh bien, on sait bien que le rôle de première puissance du monde, même au sein de l'Europe, a très souvent tourné. Mais que, comme le disent très souvent les Chinois, on commentera naturellement là-dessus, c'est une montée qui n'est pas agressive en apparence et pas agressive en termes d'expansion territoriale. Alors effectivement, si vous allez vous adresser aux voisins indiens, aux voisins vietnamiens ou certainement à certains moments de l'histoire aux Japonais qui ont quand même quelques contestations sur des îles qui sont disputées entre la Chine et le Japon et puis d'autres pays aussi de la région. Ce qu'on peut observer, c'est que s'il y a extension territoriale, s'il y a volonté d'extension territoriale, comme beaucoup de choses, elle est centrée autour de la Chine et autour de ses intérêts vitaux. Alors, si la question, très schématiquement, est-ce que nous, Européens, nous devons avoir peur d'une Chine envahissante, ben, je dirais que ça n'est pas pour cet après-midi, ce n'est pas pour ce soir. On se posera sans doute la question plus tard. Mais je voudrais aussi, dans cette relativisation, reprendre la terminologie qui sous-tend le livre de Jean-Luc Domnat quand il dit « La Chine m'inquiète ». Quand il faut avoir peur de la Chine, ou quand on doit avoir peur de la Chine, il faut aussi peut-être avoir peur pour la Chine. Parce que peut-être ce qui nous fait le plus peur, c'est une Chine qui nous inquiète non pas quant à la menace qu'elle représente pour nous, mais quant à la menace qu'elle représente vis-à-vis d'elle-même. C'est-à-dire que ce qui est probablement le plus dangereux, ce qui doit faire le plus peur, c'est l'impossibilité de la Chine à régler certaines de ses difficultés économiques. La Chine, vue de l'extérieur, c'est bien sûr ses 10% de croissance, c'est bien sûr ses réserves de change de plus de 2800 milliards de dollars aujourd'hui, mais c'est aussi, on le sait tous, un pays qui a beaucoup d'inégalités sociales et qui en est arrivé là, pas simplement parce qu'il l'a voulu, mais parce qu'il y a un moment où ça devient extrêmement difficile à gérer, qui corrige tout ça comme il le peut. C'est un pays qui est peut-être en train de créer deux bulles, une bulle financière à cause du plan de relance qui a été mis en place en 2008 et qui est le plus grand plan de relance en proportion du PNB qui a été mis en place après la crise financière. C'est à peu près 10% du PNB. Il va falloir le gérer, ça, et c'est probablement une des raisons des poussées inflationnistes qu'on est en train de voir. Et puis peut-être une crise financière, moi je n'y crois pas, mais il faut être vigilant sur ce sujet-là à cause des prêts non performants que va créer cette injection massive de liquidités. Alors, relativiser naturellement cette peur et voir que cette peur, c'est aussi la peur que nous pouvons concevoir pour la Chine elle-même. Mais élément objectif de peur, oui, bien sûr, parce que si les stocks d'investissement aujourd'hui, si la présence en stock de la Chine à l'étranger est rassurante, c'était ce que j'essayais de dire au début, les flux n'ont pas eu d'équivalent dans l'histoire. C'est-à-dire que l'augmentation de la vitesse à laquelle la Chine investit, sa croissance naturellement, le besoin qu'elle a de se porter à l'extérieur, c'est une progression comme on l'a jamais vue ailleurs, et ça a un certain nombre de conséquences qui, effectivement, sont de nature à faire peur. Je pense que Benoît fera un point aussi sur les questions écologiques. Oui, si la Chine doit faire peur et si nous devons avoir peur pour la Chine, j'avais apporté ici un compte-rendu d'un article récent de quelqu'un qui fait 160 000 km à l'intérieur de la Chine et qui voit désastre écologique sur désastre écologique. On sait bien que le gouvernement actuel, le nouveau plan qui va être mis en place, font tout pour contrôler ce désastre écologique, mais qu'effectivement, il peut arriver. Et puis, peur pour les situations génératrices de conflits. Là, je parle bien de conflits militaires. La marine chinoise est l'entité militaire qui bénéficie des plus forts investissements en ce qui concerne l'armée chinoise en général. Et puis, on voit qu'il y a une course aux armements qui est très distincte de ce qui se passe ailleurs, avec des armements très spécifiques. On a vu naturellement la chasse aux satellites à laquelle se sont livrés les Chinois deux fois dans les cinq dernières années, avec des satellites, des missiles tueurs de satellites qu'ils ont réussi à faire, comme seulement deux pays ont réussi à le faire. Et puis, l'annonce, il y a 15 jours, d'une nouvelle stratégie chinoise, pendant que les deux porte-avions ne sont pas encore effectif, ce qui sera le cas peut-être dans deux ou trois ans, une arme tueuse de porte-avions, ce qui change en grande partie la donne stratégique dans la région, donc des éléments qui effectivement peuvent nous faire peur. Et puis, ce qu'on appelle, ce que les Américains appellent la assertiveness des Chinois, c'est-à-dire que la position chinoise, indéniablement, il y a eu un tournant. Le tournant, moi je n'aime pas dire que c'est le tournant de l'année 2010 où on a vu la Chine devenir la deuxième puissance économique mondiale, parce que j'ai tendance à refuser cette définition. Oui, en termes de PNB brut, la Chine est le premier marché automobile. Mais est-ce que ça vous étonne vraiment, même s'il y a 30 ans, il n'y avait pas de voiture en Chine, qu'un pays peuplé de 1,4 milliard d'habitants soit le premier pays en termes de voitures? Pas vraiment. Donc, son PNB soit en tête de l'Asie maintenant, et donc soit le deuxième du monde, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le rôle qu'a pris la Chine, et puis la façon dont elle l'affirme depuis la crise financière. Le vrai tournant, c'est la crise financière. Et surtout, ce qui doit nous marquer, c'est que cette assertiveness n'est pas assortie systématiquement, je dis bien systématiquement parce que ce point est à nuancer, d'une responsabilité assumée dans les affaires du monde. La pire des choses, ce serait probablement une Chine qui accomplisse son ascension, mais qui interpréterait sa responsabilité dans les affaires du monde. Et là, je prends très précisément un exemple qui m'est cher, c'est l'exemple de la devise chinoise. Vous connaissez bien le débat qu'il y a entre les Américains et les Chinois. C'est un dialogue de sourds. On n'en arrivera pas à une solution sur les bases actuelles. La Chine a certainement en tête de s'intégrer au système monétaire international, sûrement pas au rythme des États-Unis. J'étais à Pékin il y a 2 mois et on en a parlé. Ils nous disent, oui, dans 10 ans ou dans 20 ans, nous savons comment nous intégrer dans le système monétaire international. La vraie question, c'est qu'on a besoin d'eux maintenant. C'est pas compliqué. Et que, je ne dirais pas sans eux, mais si un certain nombre de facteurs sont malheureusement réunis, dans 10 ans ou dans 20 ans, le système monétaire international n'aura pas exactement la même tête qu'aujourd'hui. Et du coup, que la Chine veuille bien s'y insérer dans 10 ans ou dans 20 ans, ça nous importe peu. Et je n'exclus pas d'ailleurs que la Chine est en réserve, si j'ose dire, un deuxième scénario qui avait 10% de probabilité il y a 3 mois, qui en a peut-être 20 ou 30% de nos jours, et qui est un scénario alternatif de système monétaire, sinon international, en tout cas régional. Et la Chine, visiblement, privilégie autant l'internationalisation de sa devise, c'est-à-dire un rôle international ou simplement régional d'une devise qui ne serait pas convertible, dont le taux de change ne serait pas flottant, contrairement à ce que leur demandent les Américains, plutôt qu'une devise qui s'intégrerait naturellement dans les affaires du monde. Et donc là, on a un vrai problème, effectivement. Et ça, c'est de quoi faire peur. On a en face de nous un interlocuteur qui est sûr de sa force, qui est sûr de son bon droit, qui est aussi traversé, je suis sûr que Benoît en parlera beaucoup, qui est aussi traversé de courants différents, parfois contradictoires, qui ont parfois du mal à s'harmoniser. Et ça aussi, ce n'est pas vraiment un élément qui puisse nous rassurer. Bon, je termine pour essayer de faire la synthèse entre ces peurs illégitimes et exagérées, et puis effectivement les éléments qui sont peu rassurants. Je reviens sur ma citation du Rivage des Sirtes. La peur, d'abord, c'est pas un bon sentiment. On dit en français que la peur est mauvaise conseillère. Je pense que c'est aussi complètement subjectif, c'est-à-dire que si nous avons peur, c'est que ça révèle, exactement comme dans le Rivage des Sirtes, notre propre insécurité, et que la meilleure solution au refus de la peur de la Chine, c'est peut-être tout simplement que nous ayons un peu plus confiance en nous et que nous ayons des éléments. Après tout, si la Chine veut acheter l'Europe, pour schématiser, c'est peut-être qu'il y a aussi des choses qui ont de la valeur en Europe, mais non seulement elles ont de la valeur, mais on peut encore les valoriser encore plus. Et puis comment est-ce qu'on peut les valoriser? Je crois aussi que si la Chine nous fait peur, mais alors là on fait allusion à des mythes ancestraux, parce que les Chinois sont nombreux, qui travaillent, etc. Bon, on avait un défaut d'être nombreux, je pense que ce qui concerne en particulier le système économique qui nous concerne, et excusez ce propos extrêmement libéral, je crois qu'une des bonnes façons de ne pas avoir peur de la Chine qui travaille, c'est de nous-mêmes être très compétitifs en termes de marché, de prix et puis de productivité, ce que nous sommes déjà. Mais il va bien falloir affronter un monde qui sera certainement multipolaire. Et la dernière fois qu'on a eu un monde aussi multipolaire, c'était au Moyen Âge, et ce n'était pas aussi catastrophique que l'histoire qu'on a appris à l'école nous l'a parfois dit. Mais c'est certainement un monde, le Moyen Âge, où on travaillait beaucoup.
Merci beaucoup Jean-François Desmiglio. Je crois que ça nous met bien en route pour reprendre toutes ces questions dans le débat. Je retiens pour moi-même cette invitation à ne pas créer le désastre en le craignant trop, à bien regarder cette situation, de relativiser les choses, de ne pas oublier les 100 milliards d'investissements étrangers en Chine et combien les investissements chinois en Europe sont un peu comme une couverture face aussi à une volonté chinoise de retrouver un peu d'indépendance par rapport au dollar.
que cette expansion territoriale chinoise n'est pas à l'ordre du jour, et ça il faut qu'on en soit conscient, et il ne faut pas, peut-être avez-vous dit, tant avoir peur de la Chine qu'avoir peur pour la Chine dans ses différentes évolutions. C'est vrai qu'il y a des éléments objectifs de peur, peur en matière écologique, peur par rapport à toutes les courses aux armements que connaît la Chine, peur peut-être aussi parce que cette Chine a du mal à prendre toutes ses responsabilités sur la scène mondiale, ou en tout cas les responsabilités qu'on souhaiterait, par exemple en matière financière, une Chine sûre de sa force et de son bon droit, mais qui est également traversée de ses courants par des courants contradictoires. Tout cela est une invitation, vous nous avez dit à la fin, à retrouver confiance en nous, à valoriser nos richesses, apprendre à vivre dans un monde multipolaire et à travailler. Alors, Benoît, au travail.
Merci. Et à François et à Jean-François, la question « Faut-il avoir peur de la Chine ?» est une bonne question parce que, comme l'a noté Jean-François, elle est révélatrice, y compris peut-être d'abord révélatrice de celui qui la pose. Et elle m'incite de ce point de vue-là peut-être à privilégier une seule dimension dans les petites réflexions que je voudrais partager avec vous, qui est celle de ce que j'appellerais la psychologie collective. Donc, au risque de décevoir Jean-François, par exemple, je ne parlerai pas de la dimension écologique ou autre, quitte à y revenir durant le débat, mais je me demanderais simplement pourquoi avoir peur, qui a peur, comment avoir peur, enfin j'en resterai, disons, à cette dimension de la manière dont les collectivités se mesurent les unes avec les autres, si vous voulez. Et je commencerai avec une toute petite histoire, si vous me le permettez. J'habite donc à Shanghai, dans un quartier au nord de Shanghai, ni très pauvre ni très riche, et je vais faire mes courses au supermarché qui n'est pas bien loin, voilà. Ça n'a jamais été très facile pour moi de faire les courses, donc je le fais avec précaution et j'ai une certaine peur de moi-même dans mon processus d'achat, voilà. Il se trouve donc à ce supermarché voisin, pendant très longtemps j'ai également acheté mes fruits, alors même que juste à côté de mon immeuble, il y avait un petit marchand de fruits. Mais j'achetais mes fruits au supermarché, bien sous plastique, bien étiqueté, comme ça j'étais sûr de leur état sanitaire et du prix que je payais. Donc j'avais peur. J'avais peur de la qualité sanitaire des fruits. J'avais surtout peur, je ne sais pas pourquoi, j'avais surtout peur de me faire avoir, de les payer trop cher. Et puis, à force de passer devant le marchand de fruits, qui est vraiment juste en bas de mon immeuble, je passe la porte et il y a ce marchand de fruits, je me suis aperçu que c'était un gentil petit couple qui avait l'air très gentil, avec des enfants de 4 ou 5 ans qui jouaient tout le temps, qu'ils avaient un bon sourire, etc. Donc, j'ai mis quelques mois à y acheter des fruits. Et puis, je me suis rendu compte qu'effectivement, ils étaient bien moins chers qu'au supermarché et qu'ils étaient meilleurs. Et qu'en plus, la marchande m'aidait à choisir ce qui était juste à point, ni trop mûr, ni pas assez, qu'elle le faisait beaucoup mieux que moi, qu'elle le faisait mieux que moi, et qu'au fur et à mesure qu'elle me connaissait, elle arrondissait, si j'ose dire, à l'unité inférieure, ou même un peu moins. Voilà. Donc, j'ai passé ma peur, et plutôt avec des bons résultats. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, mais laissez-moi prendre cette petite parabole du marchand de fruits comme un exemple qu'effectivement, des démarches de mise en relation permet de surmonter des peurs un petit peu irrationnelles ou qui renvoient effectivement, comme le disait Jean-François, une peur sur soi-même, celle de ne pas savoir comment choisir ses fruits et de ne pas savoir le juste prix à payer, mais également qu'évidemment la question pour moi, j'allais le dire, n'a pas grand sens parce que quand on vit à l'intérieur d'un peuple, on n'a pas peur de ce peuple, on en est un peu part, si j'ose dire. Je n'ai pas peur de mes étudiants qui sont vraiment charmants, obéissants et travailleurs. Je n'ai pas peur dans le métro de Shanghai, et beaucoup moins que lorsque je reviens à Paris et que je prends le métro au moins à certaines heures, etc., etc. Donc, je ne vis pas en Chine dans la peur, bien au contraire. C'est peut-être un peu évident à dire, mais c'est bon à le dire quand même, parce que le fait de vivre dans un peuple en toute confiance et en y nourrissant des relations qui sont finalement extrêmement cordiales et humaines, même si quelquefois on se bouscule ou qu'il m'arrive d'avoir une algarade avec quelqu'un, que je déclenche assez souvent moi-même par fatigue ou irritation plutôt que mon partenaire le déclenche. Par exemple, quand pour la énième fois on s'adresse à moi en anglais ou qu'on rit ou ce genre de choses, voilà, veut dire que je ne me sens aucune raison d'avoir peur de la Chine et que c'est différent d'avoir peur d'une abstraction et d'être en relation vivante avec un peuple et avec des gens. Cela dit, évidemment, ça ne résout pas tout, ça ne veut pas tout dire. Alors, je voudrais un petit peu changer la question et me demander avec vous, la Chine a-t-elle peur d'elle-même ? Voilà. Et d'ailleurs, ça va avec la question, a-t-elle peur des autres ? Comme on vient de le voir pour nous-mêmes, d'ailleurs. Et je dirais, oui, toujours, mais sans doute un peu moins qu'avant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle avait peur d'elle-même parce qu'elle est passée par des épreuves traumatiques et donc qu'elle a peur de ses propres réactions. Un peuple qui est passé par les folies de la révolution culturelle en garde un traumatisme sur elle-même, extrêmement fort. Voilà. Donc, les Chinois se sont souvent demandé de quoi ils étaient capables, ce qui est d'ailleurs une bonne question et un bon garde-fou. Voilà. Par ailleurs, ils ont peur souvent de leur propre ascension. Et on le voit très bien quand on lit les revues de diplomatie. Et notamment, on le voyait très bien, j'allais dire, entre 2000 et 2003, et depuis moins. Mais c'est l'un des grands thèmes. Nous ne sommes pas préparés aux conséquences de notre propre ascension. Et nous sommes trop provinciaux, d'une certaine façon, trop tournés vers nous-mêmes pour assurer ou assumer les responsabilités qui sont liées à notre nouvelle puissance. Voilà. D'ailleurs, on a vu la Chine s'engager très progressivement dans les affaires mondiales. Souvenez-vous qu'au départ, après son entrée dans les Nations Unies, pendant très longtemps, elle votait systématiquement, par exemple, contre toute intervention extérieure sur le principe qu'on n'intervient pas dans les affaires d'un pays tiers. Et puis, elle est aujourd'hui le pays qui, avec la France, entretient le plus de casques bleus dans le monde. Voilà. C'est une évolution qui s'est passée progressivement, mais qui est importante. On a critiqué à très juste titre l'attitude de la Chine dans certains conflits internationaux. Il n'en reste pas moins que récemment, l'évolution de son attitude et au Soudan et en Corée du Nord est largement positive, mais je suis prêt à me faire contester dans la discussion. Ce que je pointe, ce n'est pas un état, c'est une évolution où la Chine, au fur et à mesure qu'elle apprend son rôle, a moins peur d'elle-même, tout en gardant une certaine peur des attitudes des autres. Et elle sait que son ascension est vécue dans une crainte certaine à l'étranger. Voilà. Alors, on se raconte tout ce qui passe dans un certain schéma narratif, si vous voulez. Donc, le schéma narratif qu'utilise la Chinoise, c'est évidemment les successions d'un empire après un autre, mais ils savent que ça n'a rien de tout à fait inéluctable. C'est-à-dire, ils le lisent aussi dans les conseils ou les avertissements que donne leur propre sagesse, et notamment le livre des mutations, dont l'un des leitmotivs est de dire que c'est au moment des plus grandes opportunités que les dangers sont les plus grands. Donc, que la gestion de leur propre ascension est extrêmement dangereuse, parce qu'eux-mêmes peuvent mal la gérer, mais également que leurs partenaires sont capables de comportements irrationnels, c'est-à-dire de se couper eux-mêmes les ailes en voulant empêcher les Chinois de monter. On vit, si vous voulez, dans une sorte de jeu où chacun a peur de la peur de l'autre. Voilà, c'est comme ça que je pourrais le dire. Mais où en même temps, ce sentiment diminue en Chine et diminue en même temps que nombre de réflexes négatifs. Par exemple, il est clair qu'il y a eu et qu'il y a toujours en Chine un autre schéma historique qui dit que la Chine a été humiliée profondément entre 1840 et 1939. Il n'a jamais dit publiquement qu'elle prenait sa revanche, mais que néanmoins, il y avait une sorte de contre-ascension qui se passait, qu'un peu on verrait ce qu'on verrait. Mais plus les Chinois sont satisfaits ou se sentent en confiance, plus ce schéma historique a tendance à s'affadir. C'est-à-dire que cette ascension, ou cette richesse nouvelle, puisque c'est d'abord une richesse nouvelle plus ou moins justement distribuée, pour utiliser des euphémismes, est vécue au niveau au moins des classes moyennes, des classes urbaines, ce que j'ose appeler des classes influentes dans la formation de l'opinion publique dominante, avec une satisfaction qui va de plus en plus de soi. Voilà. Donc, si vous voulez, puisqu'on vit cet état des choses depuis 30 ans et qu'il y a eu un tournant, disons, vers 2000-2001, où il y a une sorte d'inéluctabilité qui s'est mise en place, les choses se passent dans le temps et d'une certaine façon s'apaisent avec le temps, y compris dans la psyché des Chinois. Donc je dirais, la Chine a toujours peur en bonne part d'elle-même et des autres, mais je le pense de moins en moins. Il y a plusieurs indices qui l'indiquent, un qui date déjà de 2-3 ans, mais qui je pense est de plus en plus vrai, pour moi est très intéressant, c'est que d'après les sondages internationaux réalisés par la Fondation Pew, les deux pays au monde qui ont le plus de confiance et qui en ont l'opinion la plus positive du système des Nations Unies sont le Mexique et la Chine. Le pays qui a le moins de confiance dans le système onusien, ce sont les États-Unis, c'est le peuple américain. Le Mexique, je pense, parce que l'ONU est considérée comme le contrepoids le plus clair, sinon le plus efficace, aux voisins. Et la Chine, eh bien, parce qu'elle en est partie et qu'elle y joue de plus en plus un rôle, n'est-ce pas? Donc, je dirais que la confiance du peuple chinois ou sa satisfaction de participer de plus en plus au système international est plutôt un signe encourageant. Voilà. Alors, dernière partie peut-être de ma présentation qui dirait en même temps, et là je vais largement atténuer les propos assez optimistes que j'ai tenus, la Chine a-t-elle la capacité de se poser la question et de répondre à cette question, quelle Chine voulons-nous? Et c'est fortement lié à la question de la peur de la Chine. Parce que pour venir au ton personnel, oui, je reste inquiet d'une Chine qui ne pourrait pas se demander quelle Chine voulons-nous. C'est-à-dire, je n'ai pas peur d'une Chine dont le niveau de maturité, je dirais civile ou civique, pour ne pas utiliser trop vite le terme démocratique, non pas que je ne veuille pas l'utiliser, mais pour ne pas plaquer tout de suite des schémas, si vous voulez, là-dessus. J'aurais donc peur d'une Chine qui, d'une façon ou d'une autre, serait incapable de débattre sur ce qu'elle veut être. Alors là, effectivement, je trouve que si on est uniquement dans un côté automatique, se déclenche un peu la dynamique dont parlait Jean-François. Il n'y a pas raison précise d'avoir peur de la Chine, mais se déclenche de tels bouleversements un peu automatiques que personne n'est capable de prendre en considération et de gérer les changements qui s'opèrent, même si ces changements ne sont pas agressifs. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il peut y avoir, sans aucune agressivité de qui que ce soit, là je parle sur le plan économique et puis je vais venir sur le plan de la psychologie sociale, un effondrement du système monétaire qui n'est la faute de personne et qui est la faute de tout le monde et que personne n'a voulu et qui arrive quand même. Voilà. La même chose peut arriver en Chine au niveau interne et au niveau de son influence internationale si l'ascension et le rôle n'est pas pensé. Voilà. Or, on pense ce qu'on est et ce qu'on veut être dans un débat. Un débat qui, effectivement, n'est jamais terminé. Il est incapable de répondre en France ou en Europe, quelle Europe voulons-nous? Mais le seul fait que la question soit posée et débattue a un rôle régulateur, et j'allais dire un rôle éducateur. C'est-à-dire que, sans être même capable de répondre de manière articulée à les questions, on est déjà mieux ce qu'on doit être, si j'ose dire, et ce que l'autre peut espérer que vous soyez. Si vous n'êtes pas capable de poser la question, vous risquez effectivement de vous faire du mal à vous-même et aux autres. Voilà un petit peu ce que je veux dire. Donc évidemment, la question que je pose en termes peut-être un peu alambiqués ici, c'est la question de l'évolution du débat en Chine, que je ne réduis pas au débat purement politique, n'est-ce pas? Alors, je dirais que là-dessus, je reste inquiet. Et je m'en aperçois, en règle générale, quand des crises se déclenchent. Par exemple, les réactions à la crise Ouïghour, donc aux troubles dans le Xinjiang, dans le nord-ouest chinois, m'ont déçu, je dirais, parce que je connais beaucoup de Chinois, que j'ai d'excellentes réactions, et que je me suis rendu compte tout de même que quoi qu'il arrive, par exemple la prise en compte de la diversité, les relations à des populations minoritaires qui sont manifestement dans des situations difficiles, etc., restent facilement braquées, que, le sentiment de supériorité, de civilisation, j'allais dire, des 91% de Han par rapport aux 9% de minorités reste extrêmement fort, que les mythes sur l'autre, les mythes d'un Ouïghour non civilisé et quand même facilement méchant, restent assez forts, et donc il reste effectivement en Chine une grande difficulté à vivre sa propre diversité. Voilà. Alors, je m'empresse de dire qu'effectivement, de nombreux, je ne dirais même pas intellectuels, que de nombreux Chinois en sont conscients. Hein. Au contraire, de nombreux intellectuels chinois se font les théoriciens, j'allais dire, du fait qu'il est temps de civiliser ces Ouïghours, de gré ou de force. Hein, voilà. Et que, ma foi, on a été bien patients avec eux. Donc, ce n'est pas un problème d'intellectuel ou pas d'intellectuel. Des gens beaucoup plus simples, j'allais dire, ont souvent, mais qui ont vécu des situations concrètes de mixité, par exemple de voisinage de populations musulmanes et ranes en Chine même, ont souvent une optique beaucoup plus humaine et balancée. Mais je pense, pour moi, le point principal de réflexion et un peu la pierre d'achoppement, c'est la Chine va être capable de vivre sa propre diversité d'une façon qui va enrichir et pacifier son propre débat. Ou va-t-elle garder des points aveugles qui vont faire que quand une crise se présente, eh bien, elle ne va pas pouvoir la gérer en conscience. Voilà un peu ce que je veux dire, un petit peu avec peut-être le côté un petit peu abstrait de tout ce qui se réfère à la grande psychologie sociale, prendre un peuple dans son ensemble. Mais ce que je vis, c'est ça. C'est une Chine à la fois qui a fortement, beaucoup plus qu'autrefois, confiance en elle-même. Cette confiance est beaucoup plus apaisée qu'on ne le dit souvent. C'est-à-dire qu'elle n'est plus revendicatrice en essence, mais cette confiance ne va pas encore de pair avec l'acceptation de ce qu'elle est en profondeur, mais plutôt avec une image d'elle-même, simplement. Voilà. Alors, je crois, cela dit que la partie continue, il y a des quantités de lieux de débats qui souffrent en Chine, on parle souvent de l'Internet, peut-être en parlera-t-on, les universités se multiplient et sont des lieux de liberté de parole importants. Les associations, qu'elles soient légales ou non, se développent et sont des lieux où simplement la parole peut être échangée. Beaucoup de journaux font des efforts extraordinaires pour contourner la censure sous des formes inventives, je dirais, et donc pour ouvrir des espaces de débat de toutes les façons possibles. Donc, on est en face d'une Chine qui cherche à se donner la parole, mais qui a du mal à la trouver. Voilà. Donc, pour moi, le vrai débat, c'est la parole que va se donner la Chine et qu'elle va effectivement émettre. Vous n'entendez pas la parole de la Chine, pour le moment, sur la scène internationale. Vous entendez des déclarations de leaders qui gèrent le moment d'une façon qui va ne créer de vagues, ni dans la communauté internationale, ni chez eux-mêmes. Donc, ce n'est pas une parole véritable, n'est-ce pas? Ce sont des affirmations performatives qui ne valent que dans l'instant où ils sont exprimés. Si, en revanche, cette parole, même dans certaines explosions, prend forme en Chine, je pense que le fait d'entendre parler la Chine, et donc d'être amené à l'écouter davantage, nous amènera à ne vraiment pas en avoir peur. Une partie du travail est à notre propre charge, c'est-à-dire de développer notre capacité d'écoute de ce que dit la Chine dans un travail effectivement de traduction, tel que celui auquel Jean-François faisait allusion, dans un travail, disons, de compte-rendu objectif, dans un travail de contact, de relations et de rencontres, que ce soit directement en Chine même ou dans les Chinois de plus en plus nombreux que nous rencontrons à l'étranger. Donc, une partie du travail est à notre charge. L'autre partie du travail est à la charge des Chinois. C'est la priorité qu'ils se donnent à eux-mêmes est effectivement le surgissement de leurs propres paroles.
Merci beaucoup, Benoît. Nous sommes heureux que tu aies passé ta peur vis-à-vis de tes marchands de fruits. Mais on a bien compris ce que tu voulais nous dire par là, que tu ne vivais pas en Chine dans la peur, et ça je crois que c'était peut-être finalement la chose la plus importante. Alors la Chine a-t-elle peur d'elle-même? Oui, mais moins qu'avant, tu nous as dit. La Chine, au fur et à mesure qu'elle apprend son rôle, a moins peur d'elle-même. Elle prend aussi la mesure de la crainte des autres, et que les choses pour elle s'apaisent avec le temps. Tu restes quand même inquiet finalement sur cette Chine qui serait incapable de débattre sur ce qu'elle veut être. C'est donc vraiment la question de l'évolution du débat en Chine, débat pas simplement politique. Finalement, la Chine va-t-elle réussir à faire vivre sa propre diversité? Heureusement, le débat est ouvert, des intellectuels, des universités, des associations, des journaux, mais l'enjeu, c'est sans doute de bien prendre conscience que nous sommes en face d'une Chine qui cherche à se donner une parole, mais qui a encore du mal à la trouver. Alors cette parole, eh bien, nous allons essayer de la faire vivre et de débattre autour de cette question. Nous allons commencer par prendre un certain nombre de questions, de réactions dans cette salle. Dans la salle à côté, il n'y a pas de micro qui va se balader, mais ceux qui veulent écrire sur des petits morceaux de papier telle ou telle question peuvent le faire et le faire passer dans la grande salle pendant que nous recueillons quelques questions ici par le micro. Voilà, n'hésitons pas donc à prendre la parole. Nous avons 3 quarts d'heure ce soir, c'est vraiment un temps formidable de débat. Ben, ne partez pas tout de suite, monsieur. Attendez. Le débat sera tout aussi intéressant que ce qui précède, mais n'hésitons pas à le faire démarrer. Voilà, je sens qu'il y a une question de monsieur. Alors voilà, d'abord.
Bonjour, Mathieu Grandjean. Je suis jeune diplômé d'une école d'ingénieurs et je viens de terminer un stage de 6 mois en Chine, à Pékin. Et je trouve qu'il y a déjà une vraie réponse dans ce que vous avez dit tous les deux, c'est qu'on n'a pas entendu le mot Tibet, on n'a pas entendu le mot communisme, on n'a pas entendu le mot dictature, on n'a pas entendu le mot répression politique. Et pourtant, ce sont tous les schémas de peur qu'on m'a opposé moi quand j'expliquais ce que je vivais en Chine. J'adhère parfaitement à ce que vous dites, Benoît Vermander, sur la vie dans le métro, dans la rue, avec le marchand de fruits. Moi non plus, je me suis senti beaucoup plus en sécurité dans la rue en Chine que dans les rues de Paris. Je voudrais poser une question vis-à-vis du plan quinquennal qui vient d'être lancé et qui est beaucoup plus axé sur le social et sur la diversité. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qui finalement, ce système qui est en train de se mettre en place, de quoi les économistes, les politiques en Chine peuvent avoir peur vis-à-vis de cette mise en place qui ne sera pas évidente.
Voilà. Très bien, merci. Il y avait une autre question. On va faire passer le micro par ici. Levez peut-être la main pour qu'on puisse faire parler bien dans le micro.
Bonsoir. Une question assez courte. Qui gouverne la Chine, en fait?
Oui, c'est une question facile.
Mais quel groupe social gouverne la Chine et quel est son intérêt, en fait? Et le discours, je me disais, il y a 20 ans, on aurait remplacé Chine par Japon. Peut-être, est-ce qu'on n'avait pas la même peur, en fait, finalement, de l'ascension d'un pays asiatique, c'est-à-dire non occidental. Et la troisième question, c'est le lien, un non-dit, pardon, un absent qui est la Russie et qui fait souvent dans une négociation internationale, j'étais étonné par une personne qui disait la Russie c'est ni l'Europe ni l'Asie, c'est la Russie, c'est entre les deux. Et donc en gros la Chine c'est quand même le poids lourd de l'Asie. Est-ce que nos relations, notre peur, c'est pas aussi la Russie qui est la place dans cette relation entre la Chine et l'Europe?
Très bien, on va prendre une troisième question devant. Voilà, non, excusez-moi madame, derrière, parce que, voilà, monsieur a demandé avant, voilà.
Merci beaucoup. Moi, j'ai 2 questions. La Chine n'a pas les mêmes règles d'état de droit que nous. Et, par exemple, je trouve très surprenant la méthode chinoise pour s'emparer de technologies. Et là, il me semble que, je ne sais pas s'il faut en avoir peur, mais il y a tout de même une grande inquiétude sur ce sujet. Et puis, deuxièmement, la façon dont la Chine a traité le problème du prix Nobel dissident me paraît très condamnable et tout au moins indiquer que la Chine peut avoir peur de circonstances importantes dans le monde international.
Voilà, on va essayer de répondre à ces trois questions et puis on reprendra toute une série. Merci, monsieur le sénateur. Peut-être, je vous laisse sur le plan quinquennal, démarrer.
Bon, effectivement, la façon dont la question a été posée sur le plan quinquennal a été est très stimulante. Enfin, je voudrais quand même revenir sur le fait que les mots de dictature de Tibet et de Xinjiang n'ont pas été prononcés. C'est pas parce que des choses ne sont pas prononcées que l'arrière-fond de ce qu'on dit n'existe pas. Ce soir, on est là, on a 40 minutes de parole. On dit beaucoup de très belles choses sur la Chine et je crois que nous sommes déterminés, je crois que vous l'avez compris, et je ne crois pas trahir la pensée de Benoît, mais il réagira de toute façon pour dire que il y a vraiment une psychologie effectivement à adopter. J'ai aussi vécu en Chine, j'ai ressenti le même sentiment de sécurité. Je ne peux pas non plus cacher que j'ai parfois aussi ressenti des agressions en tant qu'étranger. Je veux dire, je nuance un peu le propos de Benoît, ça arrive toujours. Donc, dictature, Xinjiang, Tibet, prix Nobel, non, on ne peut quand même pas, en tant qu'occidentaux non plus, si vous me permettez, se coucher. Je ne souhaite pas qu'on élude ces mots, ils sont présents, mais comme l'a très bien dit Benoît, si on veut effectivement aller de l'avant, il ne faut pas qu'ils soient notre seule étoile, si j'ose dire, pour guider notre conduite vis-à-vis de la Chine. Alors le plan, je reviens sur votre point, si on regarde le 11e plan, en fait, le 11e plan, il nous avait annoncé un certain nombre de choses, je dirais deux points sur ce 11e plan. À la fois, elles ont toutes été accomplies, et deux, ce qui s'est passé dans les 5 années du 11e plan n'a rien à voir avec le 11e plan. Je m'explique, et je le fais très rapidement. Comment est-ce qu'on est arrivé à accomplir le 11e plan ? Dans certains domaines, en accomplissant en 3 mois, les 3 derniers mois du 11e plan, tout ce qu'on n'était pas arrivé à faire pendant 4 ans et 9 mois. Donc on a fermé des usines à toute allure, ou on a géré des questions qui n'avaient pas été gérées. Donc le plan gouverne la Chine, et c'est aussi une façon de répondre d'ailleurs à l'autre question, mais le plan gouverne la Chine, c'est sûr, mais il y a des choses beaucoup plus importantes qui se passent. La chose la plus importante qui s'est passée, je l'ai dit à un moment, enfin de mon point de vue, du point de vue économique, c'est le plan de relance, qui a complètement balayé le 11e plan, et qui d'ailleurs a créé les déséquilibres qui ont obligé pendant les 3-6 derniers mois du 11e plan à resserrer quelques boulons. Alors le 12e plan, je crois que c'était le sous-jacent de votre question, il va se préoccuper naturellement des questions sociales. On avait ce débat ce matin avec Benoît, ça rejoint la question de la dictature, ça rejoint la question des préoccupations des gouvernants chinois, ça rejoint la question de qui gouverne la Chine, sur le rôle de Wen Jiaba. Et on s'est interrogé beaucoup ce matin avec Benoît, on n'a pas voulu d'ailleurs trop s'aventurer parce qu'on n'en sait rien, parce qu'on n'en sait rien, mais il y a effectivement une question sur Wen Jiaba. Est-ce qu'il est en train de pointer pointer quelque chose qui serait contre la dictature, qui serait effectivement sur le souci social, qui pourrait animer le 12e plan. Mais il se passera pendant le 12e plan des choses que le 12e plan n'avait pas prévues. Mais la planification, c'est une des choses qui gouverne la Chine. Et d'ailleurs, c'est l'une des grandes différences entre la Chine et nos pays. Malheureusement, je ne dirais pas que malheureusement, on n'a plus de commission du plan chez nous, mais malheureusement, on ne sait plus réfléchir avec les mêmes échéanciers que la Chine. Et ça, honnêtement, ça nous tue. Et ce qui fait la Chine, c'est cette capacité à aller très 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 loin dans la planification, ça c'est prodigieux. J'aimerais usurper encore de 2-3 minutes sur Chine, Japon et Russie. Dans le langage chinois, dans le langage diplomatique chinois, dans le langage de l'analyse politique chinoise, la Russie fait partie d'une quatrième catégorie de pays, à côté des pays qui sont en déclin, je vous laisse imaginer lesquels, à côté des pays qui sont en pleine ascension, certaines, je vous laisse imaginer lesquels, les pays dont on ne sait pas trop ce qui va leur arriver, et les pays qui ont 2 voies possibles, mais alors, parce qu'ils ont déjà connu une voie, ils ont connu l'autre, et ça peut basculer. La Russie, c'est un pays, point d'interrogation pour les analystes politiques chinois, ça peut aller dans un sens comme ça peut aller dans l'autre. Et pour finir, à propos de la Russie, je voudrais quand même vous faire cette espèce de représentation figurative de la frontière qui passe entre la Chine et la Russie, où d'un côté vous avez une surpopulation et de l'autre côté vous avez beaucoup de matières premières et personne. C'est vraiment là, c'est une frontière physique. Chine-Japon, le Japon qui montait, la grande différence c'est que le Japon ça lui est déjà arrivé et que la Chine travaille surtout les exemples historiques. Les dirigeants chinois sont des gens qui travaillent sur les exemples. Et donc question monétaire, leur spectre, c'est l'internationalisation du yen, ce qu'ils appellent l'internationalisation du yen. Leur spectre, c'est les 10 années perdues, les soi-disant 10 années perdues, peut-être plus, au Japon. Donc, il n'arrivera pas à la Chine qui est arrivée au Japon. Et il ne nous arrivera probablement pas ce que nous avons craint de voir arriver avec le Japon. Ce sera sûrement différent.
Merci. Je crois d'ailleurs, en réponse à certaines questions et interpellations, qu'il faut que Jean-François et moi reconnaissions qu'étant immergés dans la Chine, si j'ose dire, depuis longtemps, on peut parfois considérer des choses évidentes comme trop évidentes ou ne pas en parler ou avoir, une perspective qui peut paraître curieuse. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune perspective qui est tout à fait réelle. Je pense à Pascal disant, quand on regarde un tableau de trop près, on ne le voit pas. Quand on le regarde de trop loin, on ne le voit pas. Quel est le véritable lieu? Dans la peinture, la perspective la signera, mais dans la morale, qui la signera? C'est un peu la même chose pour regarder la Chine. C'est-à-dire, il est parfaitement exact que le gouvernement, par exemple, reste un gouvernement répressif sur un certain nombre de domaines. Il est exact que les problèmes de définition territoriale de la Chine posent question, et ainsi de suite. Je pourrais citer encore d'autres choses. Il est en même temps exact qu'on peut être un peu immergé, disons, que dans l'action ou dans le mouvement que le peuple chinois se donne pour se libérer peu à peu de ses contraintes, voilà, hein, ou qu'on ne peut pas faire porter à un peuple toutes les fautes de son gouvernement ou toutes les fautes de l'histoire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il n'y a pas de véritable lieu. Tout est vrai là-dedans. Le problème est de savoir, effectivement, dans l'art de la morale, c'est-à-dire dans l'art de se comporter, qu'est-ce qu'on va faire? Et ça, ce n'est pas facile. Par exemple, ce que nous disons ne détermine pas automatiquement une politique européenne vis-à-vis de la Chine. Bon, je crois qu'il est clair que c'est une politique d'engagement. Cette politique d'engagement peut varier considérablement également. Ce qui est certain, que ça ne peut être ni une politique de confrontation, ni une politique de containment, mais que c'est sans arrêt une politique d'engagement, mais que les formes de cet engagement peuvent varier. Je pense que l'option fondamentale qui dit qu'il s'agit d'engager la Chine dans les grands dossiers de la gouvernance mondiale est un peu rhétorique, mais fondamentalement valable. C'est-à-dire que ce qui est bon pour la Chine est bon pour le monde, ce qui est bon pour le monde est bon pour la Chine, si j'ose dire, et que dans le monde actuel, les intérêts communs, au fond, l'emportent largement sur les conflits d'intérêts. Et ça, je suis prêt à le défendre. Et je crois que c'est une perspective importante pour se situer vis-à-vis de la Chine. Et que ce n'est pas vrai que par rapport à la Chine. Si on prend les grands dossiers de la gouvernance mondiale ensemble, il est vrai que les intérêts communs l'emportent sur le reste. Et ça n'a aucune contradiction avec, j'allais dire, une saine compétition économique, par exemple. Alors, la question des règles du jeu est essentielle. Elle fait partie également des grands dossiers de la gouvernance mondiale, sans prétendre pour autant que nous observerions en permanence des règles du jeu que, par ailleurs, dans le monde de l'après-guerre mondiale, nous avons largement contribué à fixer par nous-mêmes. Donc, il est aussi exact qu'une redéfinition des règles du jeu est parfaitement légitime, comme on le voit dans le domaine monétaire, par exemple. Voilà. Alors ça, c'est un premier point. J'interviens peut-être également sur la question qui gouverne la Chine, parce qu'effectivement, elle est importante pour savoir doit-on avoir peur de la Chine, qui est-ce qui va décider de son destin, et ainsi de suite. Je crois qu'il faut être clair, c'est un parti-État qui gouverne toujours la Chine. Voilà. Donc ça reste un modèle dans lequel un parti-État détermine les intérêts du pays, établit des courroies de transmission tant pour faire remonter les demandes et les intérêts de la population que pour lui transmettre des consignes, et a du mal à créer un espace autre que cet espace. Donc il y a un marché économique qui s'est créé, ou plus exactement des marchés économiques, certains très contrôlés, certains très libérés, et pour tout le reste, c'est le parti État qui détermine depuis le haut la bonne marche à suivre. Voilà. Ça reste effectivement le processus formel de décision en Chine. Cela dit, les impuissances et les dysfonctionnements au sein de ce parti-État sont très forts, et la question, pourtant très simple à formuler, mais à laquelle les sinologues n'arrivent véritablement pas à répondre, c'est de savoir quels sont les rapports exacts entre le centre et les gouvernements locaux. Dans la pratique, ça devrait être simple, puisque c'est le centre qui nomme les gouvernements locaux, et pourtant on sent en permanence une impuissance de ce centre vis-à-vis des initiatives de la marge de fonctionnement, etc., etc., des gouvernements locaux. Donc il y a effectivement une dilution du pouvoir que personne ne réussit véritablement à expliquer et à formaliser, si j'ose dire. Donc effectivement, la question qui gouverne la Chine, d'une certaine façon, n'arrive pas à y répondre aujourd'hui, au-delà de l'axiome qui reste valable, que c'est l'État-parti qui gouverne la Chine. Alors ça a une conséquence qui est importante pour nous aussi, c'est que la Chine n'a pas un grand plan d'action. Voilà. D'ailleurs, ni au niveau national, ni au niveau international. C'est-à-dire que son fonctionnement est beaucoup plus pragmatique, et comme le disait Jean-François, par exemple, à propos du plan de relance, mais l'exemple pourrait être étendu à des quantités de domaines, beaucoup plus gestion des crises telles qu'elles se présentent qu'on pourrait l'imaginer. Voilà. La Chine est un pays non seulement pragmatique, mais qui quelquefois ne sait pas où aller, va effectivement analyser soigneusement la situation à l'intérieur de think tanks et d'autres structures, mais pour prendre des décisions qui seront beaucoup, beaucoup plus conjoncturelles qu'on ne le pense souvent.
Mais avec une vision.
Oui, il y a une vision. Il y a une vision. Il y a une vision, mais une vision ne se traduit pas forcément en une politique cohérente.
Si tu as fini, je crois qu'on peut quand même, on peut quand même pas laisser tomber la question du transfert de technologie, qui est une question très importante, qui est très compliquée aussi. On s'y attendait, on savait qu'on aurait beaucoup de questions très compliquées à traiter. Il me semble quand même que la question du transfert de technologie est une question malheureusement beaucoup plus douloureuse en Europe qu'ailleurs. On peut faire une réponse équilibrée, on peut commencer par là, en disant que dans les nombreux dépassements que la Chine accomplit en 2010, 2011 et dans les années qui viennent, le nombre de brevets scientifiques chinois qui va être déposé sera probablement le plus grand nombre qui sera déposé dans n'importe quel pays. Et là, je parle à la fois des brevets domestiques et des brevets internationaux. Donc il y a une réelle capacité de recherche en Chine. Bon, je vous l'ai dit, c'est la première partie de la réponse, c'est une réponse équilibrée et en même temps objective. Il y a une vraie recherche en Chine, c'est-à-dire des gens qui arrivent à envoyer des missiles tueurs de satellites et qui projettent les armes dont je vous ai fait la description, sont quand même pas tombés de la dernière pluie, si j'ose dire. Néanmoins, l'une des questions sur les transferts de technologie, l'une des questions sur l'accès au marché, en fait, c'est de ça qu'on parle. C'est une question qui est ouverte et qui est douloureuse, et qui malheureusement est plus douloureuse, me semble-t-il, à cause de la porosité, on peut dire d'une naïveté dont on fait preuve très souvent les Européens avec leur incapacité à avoir une réponse cohérente à ce genre de questions. Il y a un mur invisible, beaucoup plus fort aux États-Unis. Et simplement, nous, on est autant de pays, autant de possibilités de faire des transferts de technologies non souhaités. Je crois que c'est quelque chose qui est tangible. On n'arrive pas à s'entendre entre nous, et on a un marché qui est probablement, par définition, beaucoup plus accessible à qui que ce soit que le marché chinois. N'est de toute façon accessible à qui que ce soit, mais aussi plus accessible que le marché américain est accessible à qui que ce soit. Et derrière, on a forcément la question des transferts de technologies que nous ne savons pas très bien gérer. On se cache derrière son petit doigt, on a honte, et voilà. Il y a des choses qu'on n'ose pas dire.
Merci, nous allons reprendre une série de questions. Alors, je vois un petit papier là, mais le petit papier peut peut-être descendre, s'avancer un peu, et puis... Voilà, si vous pouvez nous le donner maintenant. Merci. Et puis, on va revenir. Grégoire, viens. Voilà, il y a une première question ici. Il y a beaucoup de questions. Une première question là. Et puis, il y en aura une autre tout en haut. Merci. Ensuite.
Oui, bonsoir. C'était une question très courte. Que pensez-vous du problème démographique, si on peut appeler ça un problème ? Avec le déséquilibre qu'il a fait naître homme-femme, et puis il a tous ces enfants uniques qui ont peut-être des besoins et une mentalité différente de celle de leurs parents.
Merci. Alors, on va grimper tout en haut. Aurélie, voilà, un peu d'exercice pour les jeunes jésuites. qui terminent leur formation.
Dans un pays qui a une histoire avec, comme tout le monde le sait, des empereurs qui ont régné de tout temps et donc une sorte de gestion centrale, quelle est la place réelle de l'individu en Chine? Notamment, vous parliez de débats. Je sais bien qu'il y a des débats au niveau intellectuel, mais j'ai l'impression que tout ça reste quand même très cloisonné. Et j'aurais bien aimé vous entendre sur ce point-là. Et la deuxième question, est-ce qu'il faut avoir peur du nationalisme chinois? Ayant moi-même vécu en Chine, j'ai eu plusieurs expériences qui a prouvé que le jour même où le gouvernement ou que l'ambassade en Yougoslavie a été bombardée, il ne faisait plus bon de se promener en tant que blanc dans les rues de Pékin parce qu'on était pris pour un Américain et que la première question, est-ce que vous êtes Américain? Si vous êtes Américain, vous ne rentrez pas dans le restaurant. Et tout ça, et donc du coup, là, on se dit, il suffit qu'il y ait un problème diplomatique, enfin mondial, pour que tout à coup, non seulement 1,4 milliard de Chinois soient sous l'emprise d'un gouvernement qui aurait dit bah, c'est blanc ou noir, mais en plus 300 millions de la diaspora chinoise de par le monde. C'est-à-dire voilà, quelque chose de très fort qui est ancré en eux. Alors, est-ce une force ou est-ce aussi un risque et un danger? Et nous, quelle est notre identité aussi par le monde?
Merci. J'ajoute une question qui est arrivée par papier. La Chine a-t-elle peur d'un renouveau spirituel? Voilà, c'est sur un autre terrain. On va redonner la parole, donc la question de la démographie, la place de l'individu en Chine, la peur du nationalisme chinois, le renouveau spirituel. Peut-être donner la parole à Benoît pour commencer.
D'accord, c'est des bonnes questions. Je crois, heureusement, qu'on peut synthétiser quelques réponses là-dessus. Le problème démographique, il est réel, mais pas immédiat, pour des raisons, alors là, j'allais dire, de techniques démographiques, c'est aussi une science qui n'est pas si facile. Et il n'est pas immédiat, ce qui veut dire qu'il y aurait éventuellement moyen d'y remédier, que le gouvernement chinois y réfléchit, c'est-à-dire qu'il deviendrait un énorme poids économique et social d'ici 20 ans environ. Il est possible que la politique de l'enfant unique soit libéralisée au dernier moment, c'est vite dit. Cela dit, ça ne va pas entraîner des quantités de naissances. Dans les villes, comme partout dans le monde, les gens n'ont pas envie d'avoir beaucoup d'enfants. Ils estiment que, un, c'est déjà un investissement énorme, mais cela dit, globalement, évidemment, on irait vers les deux. Disons. Voilà. Alors, ça veut dire de toute façon qu'effectivement, à un moment donné, la performance économique de la Chine va peut-être être réduite, mais ça dépend aussi du nouvel. On ne sait pas ce que sera dans 20 ans le mode de répartition du travail et de combien de personnes travaillant une économie aura besoin. Mais disons que la proportion de personnes non travaillant dans l'économie sera infiniment plus importante que maintenant. Voilà. On ne peut pas dire tout de suite que ça va créer un problème économique, ça dépend de trop de facteurs différents. Mais à la rigueur, ce problème sera encore accentué si les Chinois se remettent à faire des enfants. Vous voyez ce que je voulais dire? C'est-à-dire que la pyramide des âges va profondément changer, mais on ne sait pas encore exactement comment. Et les Chinois ont encore une quinzaine d'années, disons, pour réfléchir à ce problème, si je puis dire. Voilà. Alors, l'individu en Chine, il y a beaucoup de types de réponses culturalistes et que moi je dirais d'abord et avant tout que, quelle que soit l'importance du réseau familial et tout, nous avons 1,4 milliard d'individus qui, pour reprendre une fois encore Pascal aujourd'hui, vivent en règle générale avec leur pensée de derrière, c'est-à-dire sont parfaitement capables de faire une analyse et de penser ce qu'ils ont envie de penser. Et de plus en plus. Ça peut être contesté, limité, mais fondamentalement, si on veut résumer rapidement, c'est ce que je dirais. Il est exact qu'il y a eu des explosions de colère ou de haine même au moment du bombardement de l'ambassade de Belgrade, qu'il y en a eu autre depuis, mais ça va également dans ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire qu'avec le temps qui passe et la prise de confiance de la Chine en elle-même, ces choses-là sont de plus en plus tempérées, c'est-à-dire beaucoup. C'était quand? 97 le bombardement?
99.
D'accord, ok. Ça fait donc 12 ans. En 12 ans en Chine, c'est très très long. Hein, voilà. Je veux dire, ça va très bien avec ce que je disais, c'est-à-dire ce genre de choses est de plus en plus assumé et la Chine est de plus en plus pacifiée. Cela dit, il est aussi exact que quand s'avère une crise, quand une crise arrive, il y a un retour du refoulé qui peut ressortir. Donc il y a un nationalisme chinois, mais il y a des divisions dans l'opinion publique quant à la virulence et l'importance de ce nationalisme. Donc moi, je tempérerai beaucoup ce que vous avez dit, pour être honnête, en notant par ailleurs qu'il y a également des différences régionales fortes, et je pense que Jean-François, qui a vécu à Pékin, à Shanghai, le confirmera, et que ce n'est pas du tout la même chose, par exemple, de vivre à Pékin, à Shanghai. Voilà. Et que Pékin est une ville, par bien des côtés, particulière. Enfin, moi, c'est comme ça que je le sens. Personnellement, je n'ai jamais été très à l'aise à Pékin. Mais ça, il y a des cultures différentes aussi là-dessus. Dernier mot, la Chine a-t-elle peur d'un renouveau spirituel? Non en tant que renouveau spirituel. C'est-à-dire, même les leaders l'appellent de leur vœu si c'est créateur de moralité et de solidarité. Et il y a un renouveau spirituel, à mon avis, évident en Chine, qui n'est pas tout à fait équivalent à un retour de religieux. Mais ça, c'est une question qu'on peut comprendre aussi vu de l'Occident. Ce dont le gouvernement a peur, c'est d'une collusion de mouvements spirituels avec une demande démocratique explicite et organisée. Et il y a un modèle là-dessus qui est celui de la Corée du Sud, où le renforcement des églises chrétiennes dans les années 70 et 80 a été inséparable du mouvement pour la démocratisation du pays. Or, c'est une comparaison explicitement faite par certaines églises protestantes, notamment d'ailleurs à Pékin, qui est une place plus politisée que le reste de la Chine. Ça peut d'ailleurs être une bonne chose pour la Chine, ça c'est un autre débat, mais si vous voulez me demander où est le point de fixation du gouvernement, c'est de voir les mouvements spirituels, religieux ou para-religieux, devenir des lieux de focalisation pour d'autres revendications.
Bon, naturellement, je suis beaucoup moins qualifié que Benoît sur la question du renouveau spirituel, mais ma ligne habituelle sur cette question-là, c'est simplement, avec le côté caricatural que ça représente, et vraiment, je vous prie de m'excuser pour cette réponse, c'est le débat gallicanisme-ultramontanisme. C'est-à-dire que, malgré tout, la présence des églises en Chine, à partir du moment où elle est identifiée à quelque chose qui n'est pas la puissance souveraine, est quand même un élément de déstabilisation, indépendamment des nuances que tu as faites. C'est très caricatural, mais il y a quand même, c'était présent dans les questions, et vous voyez bien qu'on a à aucun moment, dans les questions qui portaient sur le système politique chinois, on a été en opposition vis-à-vis des questions qui ont été posées. Il y a quand même un système politique qui est quand même très unificateur, et le renouveau spirituel, à un moment ou à un autre, il passe quand même par une théorie des deux mondes, hein, on va dire. Et bon, je crois que vraiment Benoît a répondu à toutes les questions. Sur l'élément démographique, il y a un point que Benoît a évoqué qui reste quand même une question. Tu prends la théorie selon laquelle on aura, si j'ose dire, des gains de productivité ou une capacité d'enrichissement proportionnelle ou supérieure au vieillissement de la population. Je ne vais pas encore citer une fois de plus l'adage que je prétends avoir inventé, mais qui a été repris très souvent sur le fait que la Chine sera vieille avant d'être riche. Mais, je veux dire, on peut prolonger tous les traits qu'on veut. On a quand même du mal à imaginer un PNB par habitant qui atteigne un jour les 40 000 dollars pour une Chine qui aurait 1,6 milliard, 1,7 milliard d'habitants. Il va falloir à un moment, soit que les gens travaillent beaucoup, beaucoup plus, qu'ils refassent effectivement des enfants. Et alors là, ça repose d'autres problèmes.
Je ne crois quand même pas qu'il y a des gisements de productivité absolument énormes et inexploités.
Si, bien sûr, ils sont colossaux, mais après, les gisements de productivité, ça crée aussi, on le sait bien, et c'est une des grandes hantises du pouvoir actuel, ça crée aussi des poches d'inactivité. Parce que si tu démarres...
C'est déjà vrai aujourd'hui, d'ailleurs.
Comment ?
Ce qui est déjà vrai aujourd'hui.
Oui. On augmente la productivité d'un côté, donc effectivement, le PNB a une bonne poussée de croissance, et puis il y a des gens qui n'ont plus de job. Et donc là, les deux équilibres sont très, très difficiles à gérer ensemble.
Merci. Nous reprenons quelques questions. Je crois qu'il y en avait une là-devant. Il y en aura une au milieu et une tout au fond. Voilà.
J'aimerais poser une question à partir d'un exemple concret. Je connais un laboratoire qui a développé une lignée cellulaire immortelle par génie génétique. Et comme il est d'usage, ces cellules sont disponibles gratuitement pour tous les chercheurs qui en font la demande. Mais il s'engage par écrit à ne pas les donner à d'autres sans autorisation, à ne pas les commercialiser et à indiquer la source de ces cellules dans toute publication. Alors, ces cellules ont été envoyées dans beaucoup de pays, en Asie, y compris en Chine. Et tous les chercheurs dans ces différents pays ont accepté les clauses, sauf en Chine. Alors, est-ce que vous avez une explication pour cette coopération unilatérale de la part des Chinois? Et est-ce qu'ils sont prêts à jouer en équipe avec les autres chercheurs?
Merci. Alors, on va aller jusqu'au milieu. Ça va laisser le temps. Levez bien la main, laissez le temps de trouver la réponse. Oui, oui, il y a beaucoup de questions. On en est conscient. On va essayer de les faire passer tous. Allez-y, monsieur.
Je reviens sur un problème démographique et économique. La Chine doit chaque année créer 20 millions d'emplois pour que les gens qui vivent encore à la campagne, ils sont très très nombreux, je crois que c'est 80% de la population, puissent trouver des emplois.
Non. Attendez, on répondra tout à l'heure. Allez-y, oui. Au fond de votre question.
Donc, le gouvernement chinois doit créer chaque année 20 millions d'emplois pour différentes raisons. Parmi ces créations d'emplois, il y en a, semble-t-il, qui pourraient se faire dans des pays extérieurs à la Chine, car il semble que certains contrats que les Chinois passent avec des pays d'Afrique ou des pays d'Amérique du Sud, etc., stipulent que le personnel qui va travailler sur des chantiers dans le cadre de ces contrats soit chinois. C'est le cas en Algérie, c'est le cas dans beaucoup de pays d'Afrique. Est-ce qu'on ne craint pas à terme que les travailleurs chinois en excédent sur leur propre territoire deviennent des immigrants dans des pays qui eux-mêmes souffrent déjà beaucoup de problèmes de chômage?
Merci, M. Romatet. Alors, tout au fond, sur ma gauche, voilà, en se levant.
Oui, une raison d'avoir peur n'est-elle pas tout simplement d'ordre économique? La Chine fait partie du capitalisme mondialisé, la logique du capitalisme, et que les entreprises vont là où le profit est le plus élevé. Donc, comme je pense que en attendant un retournement démographique, la plus-value et le taux de profit vont être particulièrement élevés en Chine, nous assistons à un mouvement très important où les grandes sociétés mondiales vont en Chine. Alors ce rattrapage n'est pas en soi scandaleux, c'est dans la logique du capitalisme, même si la phrase sur la saine concurrence économique me laisse peut-être un peu rêveur. Mais est-ce que le danger... Il n'est pas d'ailleurs double, c'est-à-dire que la rapidité de ce rattrapage va susciter des réactions de protectionnisme, de fermeture du côté des pays concernés, bien sûr les États-Unis et l'Europe, et de l'autre côté, en effet, des réactions négatives. Alors, en soi, c'est cette richesse chinoise qui n'est pas en soi mauvaise, mais la rapidité et la logique économique de la recherche du profit le plus élevé, ne va-t-elle pas créer dans le monde des déséquilibres tels que l'on peut en redouter les effets?
Merci. Et on va prendre une quatrième question. On fait un gros paquet là, sur ta droite. Voilà, là, tout de suite. Voilà, la première main qui se lève. Très bien. Merci.
Moi, je voulais savoir, bon, on a fait rentrer quand même la Chine dans l'OMC. Hein, et il me semble bien que la Russie n'y est pas. Donc, je voudrais savoir stratégiquement qu'est-ce qui se passe là. Et une autre question, mais qui est vraiment extérieure à tout ça. Je me posais la question de l'Albanie, qui était quand même maoïste. Et vraiment, il n'y a rien qui se passe là. Je ne sais pas pourquoi. Je me pose une question comme ça.
Très bien, merci. On essaiera de faire une soirée sur l'Albanie très très vite, mais on ne va peut-être pas pouvoir tout faire ce soir là. Hein. Merci. Alors... je vous laisse répondre aux questions. Vous avez le choix des armes parce que c'est des sujets assez divers. Hein.
Oui, tout à fait. Alors, encore une fois, ce sont des questions très stimulantes et la première sera probablement, je suis désolé, comme vous l'avez imaginé, celle qui aura la dernière réponse, parce qu'effectivement c'est une question très très difficile. Sur la question, il y a deux questions en fait, que je vais reprendre, la question des transferts, des transferts démographiques et puis la question des déséquilibres. La question des transferts démographiques, donc les entreprises chinoises vont à l'étranger, elles vont investir, il y a des travailleurs chinois qui y vont. Bon, on a derrière ça la toile de fond de la Chine-Afrique, comme on dit. La Chine-Afrique, c'est un exemple très complexe. En même temps, les histoires horribles, les horror stories sont vraies en Afrique, c'est-à-dire que des investissements chinois sont abandonnés du jour au lendemain parce qu'ils cessent d'être rentables, mais il y a une complexité qu'on ne voit pas toujours quand on parle de la Chine-Afrique, c'est-à-dire que ce qui peut se passer d'ailleurs sur d'autres continents ou dans d'autres pays, il y a des populations chinoises, comme on le voit d'ailleurs en France, qui ont une capacité à pénétrer et à se fondre dans le tissu existant qui est absolument extraordinaire. Et donc souvent dans des pays où il y a trois vagues d'immigration chinoise, donc une vague historique d'ailleurs qui remonte avant, qui remonte parfois au 19e siècle, comme c'est le cas en Afrique du Sud, une vague qui est une vague officielle, donc des gens qui sont sous contrat, qui sont là trouvés. Et puis il y a une troisième vague qui est constituée à la fois de gens qui sont là sur des contrats officiels ou qui viennent de leur plein gré. Alors on ne peut pas dire que ça informe pas le reste de la société. Ce qui me donne à réfléchir sur Chine-Afrique, mais qui est un exemple, je pense que ça peut se passer ailleurs, c'est que plus cette osmose-là a lieu, et moins il y a d'institut Confucius. Il y a un autre cycle, comme vous le savez ici, qui est le mythe d'une Chine menaçante qui a lieu le samedi matin, et on va parler des instituts Confucius au mois de mars. J'avais repris un interlocuteur chinois un jour, c'est tout à fait étonnant, les instituts Confucius visiblement ne sont pas utiles ou ne sont pas multipliés dans les endroits où ce genre d'osmose se passe. Alors on en tire toutes sortes de conclusions. On en tire effectivement la conclusion qui a été évoquée à un moment de façon un petit peu menaçante. Est-ce que ces populations chinoises ne sont pas mobilisables? Je crois que Benoît, à chaque fois, a montré toutes les nuances qu'il pouvait avoir dans l'individualité chinoise. Mais oui, ces populations chinoises, elles sont là, elles seront de plus en plus là. C'est la célèbre phrase de Deng Xiaoping au dirigeant américain qui lui disait « Est-ce que vous ne pourriez pas quand même laisser sortir tous ces Chinois que vous laissez prisonniers ?» Et donc Deng Xiaoping répond « Oui, vous en voulez combien de millions ?» C'est pas très compliqué, hein, effectivement, mais c'est un sujet. Hein. Il y a pas mal de façons de répondre à la question. Sur la question des déséquilibres, ça m'est très difficile naturellement de répondre de façon pertinente à un inspecteur des finances qui est par ailleurs mon collègue au conseil d'administration des Langzhou. Donc je vais être très très prudent, vous en savez beaucoup plus que moi et vous avez une longue observation de ces phénomènes. Mais la réponse toute simple que j'ai envie de faire, c'est est-ce que l'observation de l'économie n'est pas l'observation des équilibres qui se gèrent? Et certes, la menace protectionniste, elle est très très forte aujourd'hui. Enfin, je me souviens même de propos de Pascal Lamy, il y a 5 ou 6 ans, on reprend le thème de l'OMC, la Chine était entrée dans l'OMC, et par moments, on avait l'impression que Pascal Lamy avouait presque qu'il n'y arriverait pas à conduire le processus de non-protectionnisme jusqu'à son terme. Les tensions protectionnistes, elles sont très fortes, on n'est pas du tout sûr qu'elles ne prennent pas le dessus, et comme je l'évoquais à propos de la question monétaire, je pense qu'il y a dans les esprits chinois un scénario dans lequel on reforme des zones de libre-échange réduites à l'échelon des continents ou des régions, et je pense que c'est un scénario de secours que la Chine a tout à fait en tête. Et à mon avis, il prend de plus en plus de probabilités. Il n'a pas dépassé les 5. Je ne pense pas qu'il ait dépassé les 50%, mais je suis sûr qu'il existe. Bien sûr, la Chine s'est convertie au libéralisme, vous l'avez dit, de façon même provocante. Mais je ne suis pas sûr qu'elle ne soit pas capable, au titre du pragmatisme que Benoît a évoqué, un jour ou l'autre, de faire un virage à 180 degrés. On a prononcé le mot d'OMC. Je voudrais quand même rappeler que quand la Chine est entrée dans l'OMC en 2001, il s'est passé deux choses. Il s'est passé exactement le contraire de ce qu'on attendait, parce qu'on pensait qu'il y a des industries chinoises qui allaient tout simplement s'effondrer. Parce qu'on pensait que la Chine, au titre effectivement des gains de productivité encore à accomplir en Chine, qui était encore plus grand à l'époque, ne résisterait pas à la compétition. Et puis il s'est passé une autre chose, c'est que l'entrée dans l'OMC, effectivement, et ça fait partie des choses qui nourrissent nos peurs vis-à-vis de la Chine, a coïncidé très exactement avec le début de l'expansion exponentielle des réserves en devises chinoises. Donc effectivement... L'OMC n'a pas du tout eu les effets qu'on attendait ou qu'on avait mis dans certains scénarios. Maintenant que l'OMC, effectivement, ait été le tremplin pour la Chine, c'est tout à fait évident. Pour la Russie, on est en face d'une économie complètement différente. Et puis d'ailleurs, qui pour la Chine, c'était une arme d'entrée dans le monde moderne, l'OMC. C'est pas du tout le sujet pour la Russie. Excusez-moi, là j'ai répondu à la fois de façon longue et très désordonnée. Il faudra qu'on réponde quand même à la question des laboratoires. Je laisse la parole à Benoît. Éventuellement, s'il n'y répond pas, je reviens.
Je prends cet engagement. Je répondrai d'abord à cette question en disant que je pense qu'il n'y a pas de position de principe de la Chine de ne pas collaborer à des projets. Mais et qu'il y a de très nombreuses coopérations scientifiques réussies et positives. Cela dit, pour ne pas avoir l'air d'un idéaliste, je rappelle en même temps qu'effectivement, en Chine, on parle toujours d'un rapport de force. Donc je ne sais pas tous les détails, par exemple, du cas rapporté là, mais ça me paraît beaucoup comme une position de négociation, pour le dire autrement. Alors je pense, et ça reviendrait d'ailleurs à des questions liées au transfert de technologies, etc., qu'il nous faut apprendre à vivre les rapports de force de façon décomplexée, apaisée et pragmatique. C'est-à-dire on peut être à la fois dans des rapports de force et les vivre bien. C'est un peu l'une des façons dont je décrirais, par exemple, une façon d'interagir avec la Chine. En tout cas, les Chinois, en règle générale, n'ont aucun scrupule, mais problème, à la fois, ni problème, dirais-je, et je vois ça de façon aussi positive, même si ça peut paraître aussi cynique, à vivre un rapport de force. Voilà ce que je voudrais dire. Donc ne soyons ni dans l'idéalisme, ni dans la crispation. Voilà pour synthétiser une attitude. Sur toutes les questions économiques, je ne vais pas répondre en détail, mais je crois qu'il y a des choses à préciser sur un point. Il y a une crise de l'emploi en Chine, mais qui n'est pas tout à fait celle qu'on veut bien dire. Il y a à la fois une forte demande et des poches de non-demande extrêmement importantes. C'est-à-dire, par exemple, les 20 millions d'emplois créés, oui, on peut les calculer différemment, ils ne sont pas forcément du tout liés à l'exode, enfin au fait que des gens partent de la campagne, au contraire, on en demande plus. Ceux qui ont gagné en Chine ces dernières années, c'est justement, très paradoxalement, la classe ouvrière, et notamment la classe ouvrière d'origine migrante. Et notamment depuis 2008, c'est-à-dire qu'on a besoin d'ouvriers et que ces ouvriers touchent des salaires qui deviennent de plus en plus décents, ce qui, du même coup, réduit la plus-value dont on parlait. C'est-à-dire que la Chine devient un pays proportionnellement moins compétitif qu'il ne l'était, donc avec d'autres mouvements de délocalisation, comme on dit. Mais en même temps, les jeunes diplômés d'universités de second ordre, disons, enfin des universités qui ne sont pas de premier ordre même, donc de la majorité des universités, ne trouvent pas de travail qui soit décemment payé. C'est-à-dire qu'ils trouvent des emplois qui paient moins de 150 euros par mois. OK ? D'accord. Donc, vous avez une répartition de l'emploi qui est extrêmement curieuse et qui est encore extrêmement évolutive. Voilà. Et il faut tenir ça en compte quand on parle des plus-values, de l'évolution, de la position économique de la Chine, etc. La Chine a un problème structurel d'emploi à régler. Elle ne crée pas les emplois qu'il lui faudrait et elle a toujours besoin d'emplois qu'elle doit payer de plus en plus cher et qui donc réduit son avantage comparatif. Donc elle n'est pas qu'en bonne position économiquement. Elle a un problème qui devient de plus en plus important. Et je crois que c'est les deux seuls points qui peuvent compléter ce qu'a dit Jean-François.
Alors on s'approche peu à peu de l'horaire de la fin. Il y avait deux personnes qui ont levé la main depuis longtemps. Donc cette question tout en haut et puis madame, oui ça viendra. Nous terminerons par vous tout à l'heure, n'ayez crainte. Allez-y.
Bonjour, je suis une vraie chinoise.
Ah, voilà, une très bonne nouvelle.
Une vraie chinoise, je suis venue en France il y a 6 ans et je suis docteur du droit de l'Université des sciences politiques et juridiques de la Chine à Pékin et professeur de l'Université des sciences politiques et juridiques de Xi'an à la province de Shaanxi. Et en France, à Paris, je fais mes études du droit, de la thèse aussi, du droit de la concurrence. Donc, j'aurai ma soutenance le 9 février sur le thème, c'est la réforme du droit de la concurrence en Chine, l'inspiration du système européen. Et je vous remercie d'avoir de transmettre l'information objective sur la Chine. Comme une vraie chinoise, je vais peut-être témoigner mes propres expériences. Je suis née coïncidemment dans la région du nord-ouest de la Chine, Xinjiang. À la frontière de la Chine et Kazakhstan, la Russie auparavant. Et j'ai grandi là-bas et avec toute ma famille, ma petite sœur et mon petit frère. En fait, vous avez dit tout à l'heure, il y a une politique du gouvernement chinois sur la minorité comme Ouïghour. Ce que je vois, c'est vraiment il y a une différence dans la politique. Mais cette différence, c'est favorable aux minorités, aux peuples minorités. Par exemple, dans ma région, il y a plusieurs écoles mongoles. Ma région, c'est une administration autonome. Donc, il y a écoles mongole, école ouïghour et école de Han, c'est-à-dire la population, la majorité de la population. C'est ma école, c'est mon école. Dans ma classe, il y a des Russies, il y a des Ouïghours, il y a des Kazakhstans, il y a des Kyrgyzstans. Il y a toutes sortes d'ethniques. Des étudiants ethniques dans ma classe. Et surtout, en Chine, il y a un système d'entrée dans l'université, c'est le concours. Ce n'est pas comme le bac français un peu, mais il y a un plafond, il y a un seuil pour entrer dans l'université. Et pour nous, les majorités de Han, le niveau est plus haut, toujours 100 points ou 100 mentions plus haut que la minorité. Et la politique de planning familial est aussi très favorable à eux. Pour nous, on a le droit d'avoir qu'un enfant. Et moi, j'ai un fils. Et pour eux, il peut avoir 2, 3, ce qu'il veut.
Voilà, écoutez, madame, je suis désolée, on va peut-être pas... Il y a sûrement beaucoup de choses, mais voilà, on va terminer à l'heure... Vous D'accord. pourrez peut-être continuer à D'accord. raconter l'hymne à la diversité.
Et puis,
L'autre, c'est sur...
Vous terminez très rapidement, s'il vous plaît.
D'accord, ok, ok. L'autre, c'est sur la paix, le prix Nobel de paix. Moi, je veux dire, lauréat de ce prix est vraiment une risée au milieu intellectuel de la Chine. Ça, c'est ce que je veux dire. Et pour la position où...
Alors, votre dernière phrase, s'il vous plaît.
Oui, peut-être, j'ai été une victime de la du planning familial, mais je suis toujours pour ce gouvernement, parce qu'il a la bonne volonté d'augmenter la condition de vie du peuple.
Voilà, merci. Merci beaucoup. On était contents de vous entendre pour cette hymne à la diversité. Et on pensera à vous pour votre soutenance de thèse le 9 février. Alors on va terminer avec la question, si vous pouvez être un tout petit peu plus rapide et peut-être ne pas démarrer depuis le début de votre vie. Merci. Allez-y madame.
Merci.
Alors parlez bien dans le micro.
La question sera très courte. Que pense le père Vermander de l'avenir de Taïwan par rapport à la Chine, de la République de Taïwan par rapport à la République démocratique de Chine?
Merci beaucoup madame. Voilà, nous allons en rester... avec ces deux interventions.
Merci. En réponse à la première intervention, je crois qu'il faut effectivement être objectif. Il y a eu, de la part du gouvernement chinois après 1949, des politiques effectivement de discrimination positive, d'encouragement des langues nationales qui n'existaient pas dans les régimes précédents, de création de journaux, par exemple, dans les langues de toutes les minorités, etc. Ça ne veut pas dire que ça règle tous les problèmes, ce qui est vrai dans tous les pays. C'est-à-dire que la gestion de minorités dans des situations culturelles, linguistiques, économiques très fortes crée toujours des oppositions, des conflits d'intérêts, des rencontres culturelles difficiles, des pertes d'identité culturelle qui sont vécues différemment et s'expriment différemment de minorité en minorité et suivant leur situation concrète, si j'ose dire. Donc légalement en Chine, excusez-moi, 55 minorités nationales, mais je peux dire que l'une, par exemple, de ces minorités, les nationales, les Yi, peut se diviser en 6 langues elles-mêmes divisibles en 24 dialectes, ce qui veut dire qu'on peut diviser encore davantage, donc que ça fait partie de cette diversité chinoise. Que pour beaucoup de ces minorités, il n'y a pas de conflit ou pas de conflit différents que ceux qui peuvent, par exemple, dresser des populations Han contre leur gouvernement local, etc. Maintenant, pour le cas particulier des Ouïghours, et on pourrait citer celui des Tibétains, ce n'est ni Jean-François ni moi qui inventons les affrontements, les oppositions qui ont eu lieu. Maintenant, on peut donner des explications différentes à ces affrontements, mais il y a eu affrontements. C'est tout ce qu'on doit dire là-dessus. Pour le prix Nobel de la paix, disons simplement la même chose, puisqu'on vient effectivement de célébrer la diversité chinoise. Reconnaissons qu'il y a diversité d'opinions dans la population chinoise, y compris dans les intellectuels chinois, quant à Liu Xiaobo. Donc tout simplement, disons que les opinions sur Liu Xiaobo varieront suivant les degrés d'information et les positions des intellectuels chinois. Donc il n'y a pas tous les intellectuels chinois qui auraient telle opinion sur Liu Xiaobo. Taïwan et la Chine, j'ai un peu envie de ne pas en parler parce que ça va bien au-delà de la question qu'on a évoquée ce soir, donc on va très largement au-delà de tout ce qu'on peut dire. Laissez-moi simplement faire une observation conjoncturelle qui va permettre aussi de relativiser cette question de la peur. De dire tout simplement que la Chine est actuellement le moteur économique le plus puissant d'un certain nombre de pays, dont les deux, le plus clairement, sont la Corée du Sud et Taïwan. Par exemple, et même le Japon, mais j'hésite un peu plus à cause des problèmes de délocalisation qui sont compliqués. Je l'avais dans la tête sans oser le dire. Mais par exemple, l'an dernier, Taïwan a fait 9% de croissance qui sont intégralement dues à la croissance du commerce avec la Chine, tout simplement. Donc je ne réponds pas à toutes les questions. Je ne peux pas me lancer dans un historique des relations Chine-Taïwan. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en ce moment, elles sont apaisées et que la plus grande raison de cet apaisement est en fait économique. C'est-à-dire que le moteur à 100%, je dis bien à 100% de l'économie taïwanaise aujourd'hui, c'est la Chine.
J'ai très très peu de choses à ajouter. Une chose quand même extrêmement importante, c'est que sur les relations Chine-Taïwan, il y a une excellente littérature signée Benoît Vermander que je recommande absolument à tout le monde.
Je suis quand même obligé de le mentionner.
Et ce que je voulais dire quand même sur Taïwan, c'est qu'on a observé, du fait de l'apaisement dont Benoît a parlé, d'un changement radical d'axe stratégique dans d'axe stratégique de la Chine, c'est-à-dire que jusqu'à une période assez récente, on peut dire jusqu'à il y a 5 ou 6 ans, tout le dispositif militaire chinois était centré sur cette question taïwanaise. Et aujourd'hui, comme on le voit bien, avec les questions du deuxième niveau d'île qui ouvre sur le Pacifique, la question stratégique chinoise, elle a complètement changé de configuration. Et donc, tout simplement, ça en dit long quand même sur la réponse à la question, plus de la réponse économique. La stratégie militaire chinoise n'est plus axée sur Taïwan, ce qui était le cas encore il y a très peu de temps.
Voilà, je voudrais remercier en votre nom nos deux intervenants qui nous ont, je crois, vraiment aidés à être... qui nous ont aidés à être ni dans l'idéalisme ni dans la crispation, pour reprendre des propos tenus. Je voudrais également signaler, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, les activités importantes, ça a été souligné tout à l'heure, dans le cadre du centre SEV de l'Institut Ricci de Paris, le centre d'études chinoises dont le responsable est le père Michel Masson, jésuite, sinologue, avec ses cycles de conférences, cours, séminaires, cours de langue chinoise, expositions, bien d'autres choses, donc ici au centre SEV. N'hésitez pas à découvrir ses activités par son site internet www.instituticci.org pour finalement un petit peu continuer à avancer dans une compréhension plus grande du monde chinois. Merci de votre fidélité. Vous trouverez à la sortie des urnes où vous pourrez déposer votre libre participation aux frais. Et je vous donne rendez-vous le mardi 1er mars prochain pour une nouvelle soirée d'éthique publique qui sera tout aussi passionnante, même si le sujet n'est pas encore complètement défini. Mais vous pouvez nous faire confiance. La preuve, vous êtes là ce soir. Merci.